La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assayag.
Ouais, je suis sûre qu'on a tous un jour où on a recherché un bricoleur à domicile hein, rapidement sans avoir à payer à l'avance. Elisabeth, il existe une solution et elle s'appelle Bricoco.
Oui, parce que Bricoco, ça permet de trouver un plombier, un jardinier. Vous savez, c'est un marché très puissant, hein, le marché du bricolage. On a une croissance annuelle de plus de 25%. Donc, il y avait de la place pour Bricoco. Par exemple, vous vous connectez sur le site. Tiens, vous avez besoin de monter une armoire.
Vous me connaissez bien.
D'un grand géant suédois. Vous vous géolocalisez et vous retrouvez donc avec vos tonnes de cartons dans le salon. Que vais-je faire ? Et bien là, vous mettez par exemple sur Bricoco, vous dites que vous êtes à Paris, vous avez plusieurs choix. Alors vous allez mettre option montage d'un meuble Ikea ou démontage d'un meuble et vous lancez votre recherche. Alors moi, je l'ai fait pour vous. J'ai trouvé Kevin. Kevin, il prend 30 euros de l'heure. Vous avez sa fiche de poste. On s'aperçoit qu'il ne fait pas que les étagères. Hein. Ses compétences s'étendent à la peinture, au jardinage, à l'électricité, à l'électroménager. Bref, il est capable de tout faire, le Kevin, celui que j'ai trouvé. Et là, vous lui envoyez un message. La vraie différence avec les autres plateformes, c'est que vous ne payez pas en avance. Bonjour Laurent Attali.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Bricoco. Donc, j'ai un peu résumé.
Très bien résumé.
Votre différence avec les autres sites, parce qu'il en existe hein, d'autres sites de bricolage à domicile. Vous avez l'ambition de devenir une sorte de bon coin, de Doctolib du bricolage.
C'est exactement ça.
Comment vous vous y êtes pris ?
Comment est née l'idée?
C'est qu'un jour, j'ai fait venir un serrurier à la maison. Il a ouvert la porte et ça nous a coûté 150 euros. Il est resté 5 minutes.
Oui, ça nous rappelle des choses, oui. Ça peut monter beaucoup plus.
Je crois que ça concerne tout le monde. Mm-hmm. Et je me suis demandé comment c'était possible de travailler 5 minutes et de facturer à quelqu'un 150 euros. Donc là est née l'idée de Bricoco. Voilà.
Donc, Bricoco, comment ça fonctionne ? Enfin, je l'ai un peu résumé. Comment vous sélectionnez les bricoleurs qui vont venir au domicile de chacun ? Parce qu'il y a des jardiniers, il y a des serruriers, il y a
des plombiers.
Comment vous les sélectionnez ? Comment sait-on que c'est un professionnel ?
D'abord, il n'y a pas que des professionnels, il y a des passionnés. Il y a 43% de professionnels et le reste sont des passionnés. Et ils sont notés par la communauté, un peu comme Blablacar.
D'accord. Donc ils doivent payer quelque chose pour figurer sur votre site.
En fait, quand on disait qu'on fonctionne comme Doctolib, c'est ça, c'est qu'ils payent 14 euros par mois pour pouvoir être contactés en illimité par des clients. Donc ça on leur propose plusieurs missions par mois. Donc c'est 14 euros qui peut leur apporter gros.
Et moi, en tant que cliente,
on prend rien justement sur les clients. C'est toute la différence avec les autres sites. Un autre site, quand on a un problème de plomberie, une télé ou une machine à laver qui tombe en panne, on est obligé d'évaluer, de faire un devis et de payer la prestation avant que le bricoleur vienne. Mais c'est juste pas possible parce que un professionnel a besoin de constater le problème, donc on ne prend rien sur aucune commission. Donc le bricoleur vient chez vous et vous arrangez entre vous. Les prix, c'est à noter, les prix sont notés à l'heure. Donc, on a des bricoleurs qui facturent en moyenne à 12 euros de l'heure, ce qui est finalement un tarif normal, mais ce qui permet aux consommateurs de payer
le prix le plus juste possible.
Et j'allais dire le moins cher possible.
Guillaume Caro.
Donc, on est vraiment dans l'univers en fait des plateformes de compétences où on va retrouver tout un tas de personnes qui peuvent intervenir sur ces sujets-là, c'est ça ?
C'est ça, c'est un peu l'ubérisation de... Voilà.
Et la question, comment vous en êtes arrivé à faire changer votre modèle ? Parce qu'au début, vous étiez sur un modèle et en 2-3 mois, vous avez complètement changé d'orientation pour arriver à effectivement ce modèle d'abonnement. Ouais. Pourquoi le premier modèle n'était pas satisfaisant ?
Non. D'abord, l'abonnement, pendant un an, là, le site était gratuit. L'abonnement existe depuis... un mois. Au début, nous avions lancé une plateforme de produits de bricolage d'occasion. Et je me suis vite rendu compte que ça ne marche
trop lourd à gérer, peut-être.
Pas. Il y a le bon coin. C'est dur quand même d'arriver en face du bon coin. Et sur ce site, il y avait un icône « Trouver un bricoleur ». Et 40% des gens qui allaient sur ce site allaient chercher un bricoleur. Donc je me suis dit « Il y a vraiment un marché ». On a commencé à regarder ce qui existait. Je trouvais que l'offre n'était pas idéal pour les consommateurs.
Moi, j'ai une question. Si je ne connais pas, par exemple, la panne, est-ce que je suis obligée de renseigner en détail? J'ai un problème sur ma machine, mais je ne sais pas l'identifier.
Mais c'est ça qui est génial sur Bricoco. C'est que vous appelez directement, vous avez leur numéro de téléphone qui sont affichés, les gens mettent leur prix et vous les appelez. Et vous dites « Allô, bonjour, j'ai un problème ». Le type vous dit « Vous avez essayé d'appuyer sur ce bouton, je vais me déplacer ». Mais vous n'allez pas payer en avance quelque chose dont vous n'avez aucune idée finalement.
N'a pas de sens.
Ouais, ça n'a pas de sens.
Quelle est la demande la plus fréquente sur Bricoco?
Beaucoup de peinture. Jardinage commence à arriver. Il y a tout, il y a des toitures, des salles de bain, il y a tout en fait.
Zone géographique et client, c'est qui les... Où vous travaillez le plus et c'est quoi les zones géographiques? Alors, c'est urbain, c'est...
Non. On a plus de demandes en Île-de-France, évidemment, mais on travaille partout en France.
Oui, parce que des bricoleurs, il y en a partout. Et des clients aussi.
Et en fait, des clients, ce qui est...
Le client, c'est un jeune,
Le client, c'est quelqu'un qui a entre 18 et 99 ans. Parce qu'en fait, qui autour de cette table n'a pas à un moment eu besoin d'un serrurier, eu besoin d'un plombier, d'un électricien? Ça concerne tous les Français. C'est ça qui est assez génial. C'est que finalement, il y a une demande énorme et elle concerne tous les Français.
Et si j'ai affaire à un particulier qui vient, qui a un problème, si par exemple j'ai besoin de démonter un robinet et que ça se passe mal, il y a une assurance?
Non, il n'y a aucun site qui assurerait ça. Il y a des autres sites.
Il faudrait limite une décennale.
Parce qu'il n'y a aucune compagnie d'assurance qui mettrait ça. Non, vous arrangez avec le bricoleur.
C'est l'économie circulaire, on va dire, un peu blablacar. La voiture tombe en panne, ça peut arriver, quoi.
Voilà, et des sociétés qui proposent des services d'assurance, c'est au cas où, comme vous avez payé à l'avance, la personne ne viendrait pas, vous serez assuré d'avoir une autre personne, mais il n'y a aucune compagnie d'assurance.
Satisfaction, donc les gens sont plutôt satisfaits, utilisateurs de la plateforme. Aujourd'hui, les premiers retours que vous avez, c'est satisfaction.
98%, c'est satisfaction. On a eu des gens moins satisfaits. On a eu une dame qui n'était pas contente parce que le prestataire est arrivé à 7h35 et pas à 7h30.
Ah, mais d'accord. Voilà.
Okay. Ce sont des choses qui arrivent partout. Ouais. Merci en tout cas d'être venu nous parler de Bricoco. C'est la solution aujourd'hui sur Europe 1. Il est midi 58.
Europe 1.
Et vous restez avec nous, bien sûr. On va essayer de revisiter une tradition, celle de la chandeleur. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Vous êtes avec nous jusqu'à 14h et ensemble, vous le savez, nous faisons bouger la France. Aujourd'hui, c'est un secteur de tradition que nous allons remettre au goût du jour. Vous savez que la chandeleur approche, mais vous allez découvrir que c'est aussi une filière qui sait vivre avec son temps. Nous sommes toujours bien sûr avec Elisabeth Assayag qui m'accompagne jusqu'à 14h. Et avec notre coach aujourd'hui, c'est Guillaume Quéroux, fondateur de Didaxis et du Club des entrepreneurs. Et je vous présente Françoise Bonnet qui est avec nous.
Bonjour.
Vous êtes essoufflée, Françoise.
Mais c'est les trois pas que j'ai fait avant, c'est terrible.
Vous dirigez la Maison Belgique et votre famille est originaire du Finistère. Vous n'êtes pas venue toute seule, vous avez les mains en pleine. Vous avez
amené les dentelles.
Des dentelles. Alors vous allez nous en parler justement de ces dentelles. Vous dites, moi, la pâte à crêpes coule dans mes veines.
C'est un peu ça.
Comment
c'est un
ça
peu
se
ça parce que j'en ai toujours fait, j'ai toujours vu mes parents. Là, j'ai fait un petit clin d'œil à mes grands-parents qui ont eu un café breton dans les années 30 à Montparnasse, un des premiers probablement. Et donc, j'ai voulu faire un petit clin d'œil à mes grands-parents en ouvrant un comptoir breton dans le marché de Passy depuis environ 4 ans.
Voilà. 4 ans, oui. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous avez l'idée d'ouvrir ce comptoir, justement?
Déjà, j'habite le quartier.
Oui.
J'y venais parce qu'il y a un comptoir à huîtres et que je venais déguster mes petites huîtres. Et puis j'ai dit ça, j'ai dit « Oh, moi, ça m'aurait bien plu d'avoir un comptoir ». Et en fait, ça m'a été proposé très rapidement parce qu'il y avait une personne qui s'en allait. Donc j'ai consulté la famille parce que j'ai plus 30 ans, ni 40, mais même 50. Et donc du coup, j'ai dit « Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance ?» Et je me suis lancée dans l'aventure. Et j'ai ouvert ce comptoir breton, et c'est vraiment un comptoir, puisque ce n'est pas des tables, c'est un comptoir. Je vends quelques produits bretons, épiceries bretonnes, et je fais les galettes et les crêpes devant les gens, et ils viennent les déguster sur place ou à emporter, bien sûr.
Alors, ils viennent les déguster, et ils viennent aussi, et c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi de vous avoir avec nous aujourd'hui, ils viennent aussi se former.
Oui, exactement.
Vous avez deux
stagiaires par
semaine.
Mais en fait, ça s'est fait comme ça aussi. Voilà, deux par semaine. Il se trouve que la semaine, le marché est assez calme. Bon, le week-end, évidemment, bah, comme tout le monde, hein, tout le monde fait ses courses, il y a beaucoup de monde. Mais dans la semaine, c'est assez calme. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'occuper et que ça soit sympa? Donc, j'ai lancé un peu cette idée de faire de la formation. Donc, je ne suis pas une école, je ne suis pas répertoriée comme une école, je n'ai pas d'agrément. Mais j'ai des personnes qui me viennent un peu de partout, des étrangers, des reconversions. Ça va même jusqu'aux médecins qui viennent. Oui, c'est tout à fait parce qu'il s'en va à Miami, définitivement, et du coup, il veut ouvrir là-bas des trucs. Oui, c'est très, très marrant. Des étrangers, du Brésil, de Colombie, même de Russie. Et j'ai également des gens qui viennent aussi pour le plaisir. Vous voyez, une maman qui est entre deux biberons, voilà, qui est venue la semaine dernière, Alban, voilà, et puis elle est venue apprendre à faire des galettes et des crêpes.
Parce que ça s'apprend, parce qu'il y a une véritable recette. Alors je sais qu'on va ouvrir un débat aujourd'hui en parlant recettes.
On a commencé déjà à en parler avec mon voisin de droite.
on va le relancer, ce débat, d'ici quelques minutes. Mais vous faites selon la recette traditionnelle de vos grands-parents.
Voilà, bah oui, parce qu'en fait, je sais le faire comme ça.
Alors, on fait un pâton, c'est ça que vous préparez la veille ?
Le pâton de sarrasin que je fais la veille, que je fais à la main, que je tape, que j'aère, enfin voilà, que je fais la veille pour l'utiliser le lendemain, avec uniquement du sarrasin, qui est un sarrasin bio, qui vient donc de Bretagne.
Pareil pour les œufs d'ailleurs ?
Alors, pareil pour les œufs, qui viennent de Bretagne également, de Plouay. Et le beurre également. Et sinon, bah le froment vient aussi de Bretagne. Mais le concept, moi, dans mon marché, c'est que j'utilise les produits du marché pour garnir mes galettes
et
mes crêpes.
Donc, si vous faites des galettes aux coquilles, vous allez chez le poissonnier en face qui vous livre les coquilles.
Voilà, je vais pêcher mes coquilles chez le poissonnier d'en face. Je les cuisine
Pareil pour le jambon.
Le jambon est pris sur place également. Mon fromage râpé chez la crémière. Donc, en fait, voilà, j'utilise vraiment les produits du marché.
Voilà, c'est ultra un concept, court, là, pour le coup.
Donc, voilà.
On a parlé des stagiaires, deux par semaine en moyenne. Qu'est-ce que vous leur apprenez ? Vous leur donnez vos petits trucs, vos recettes, vos secrets de fabrication ?
Oui, parce que moi, je suis vraiment dans la transmission. Je cache rien. C'est ce que j'aime, hein. C'est la rencontre, c'est le partage et la transmission. Donc, effectivement, tous les petits trucs, les petites choses qu'on peut rajouter, je leur dis. Et pendant cette semaine-là, ben, évidemment, ce qu'ils apprennent, c'est à tourner sur le fameux Bilig, ce qui est effectivement quelque chose de totalement... Oui, c'est compliqué.
Pourquoi ?
Ça paraît simple, mais c'est compliqué. Il y a un coup de main à avoir. Et la plupart, le premier jour, sont « Oh mon Dieu, j'y arriverai jamais, c'est pas possible, ils me font des pâtés, des trucs horribles. » Et puis finalement, bah évidemment, c'est comme pour tout, en faisant de plus en plus, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs, hein, pendant au moins 3 jours, ils ne font que tourner. Donc ces galettes et ces crêpes ne sont pas à la vente. Donc là, évidemment, je donne bah, aux personnes du marché ou des gens éventuellement qui sont dans la rue. Voilà, parce qu'il n'est pas question de jeter, parce qu'on fait des piles. Donc là, bah, on offre, parce que j'utilise pas évidemment ma farine bio pour les exercices
pour les tests.
Des élèves.
Elisabeth, je voudrais qu'on parle justement des écoles. Il y en a de plus en plus, des écoles de formation.
Oui, il y en a de plus en plus. Et d'ailleurs, il y en a une qui commence vraiment à avoir le vent en poupe, parce qu'elle est considérée comme une école d'excellence. C'est l'atelier de la crêpe à Saint-Malo. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une formation de 210 heures sur 6 semaines. Hein. Là, on n'est pas sur deux jours par semaine.
Oui, je connais. Oui.
Donc, deux en alternance. Elle débouche sur un certificat de qualification professionnelle diplômant. Cette école, elle a été impulsée par les fondateurs du Brest Café. Ce sont des crêperies qui sont présentes, de plus en plus présentes en France et au Japon. Elle a été fondée en 2011. Et l'atelier de la crêpe est aujourd'hui une école internationale de formation au métier de la crêpe pour les professionnels et les particuliers.
Il se passe quelque chose, hein, Guillaume Kerroux, dans cet univers de la crêpe.
Non, il se passe quelque chose, mais surtout, ce que j'entends, moi, c'est la passion, l'inspiration et le fait qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Et moi, je suis assez sensible, dans le contexte qu'on est en train de traverser, à des parcours comme le vôtre, qui doivent, au niveau des auditeurs, eh bien, donner l'exemple à tous ceux qui ont envie de faire partager leur passion, parce qu'il y a de la solidarité, la transmission du savoir. On a tout bon.
Tout s'est réuni.
C'est un modèle économique qu'il faut pouvoir développer dans d'autres quartiers, dans d'autres territoires. Cette transmission du savoir, c'est pas les uns contre les autres. Dans tous ces problèmes et ces sujets de réforme, c'est les uns avec les autres, qu'on remette de la fraternité, de la solidarité dans nos activités. Et en plus, vous créez de l'économie et du social. Ben, on l'a tout juste.
Eh oui, François.
C'est ça, la France.
C'est vrai,
bouge.
Il a raison,
bravo.
Guillaume.
Bravo, bravo et merci.
Bah c'est, non, mais c'est
donc, il y en a d'autres qui vont ouvrir. Vous allez faire des émules.
Ah, tous ceux que je forme ont tous des projets.
Tous.
Donc, il y en a qui ont ouvert au Guin-les-Bains, dans le sud de la France, dans le... et à l'étranger, beaucoup. La semaine dernière, j'avais un gars qui venait de Floride, à côté de Miami, qui va ouvrir
mais vous devriez
à côté
déposer
de Miami.
Votre marque.
La crêpe s'exporte très bien, en fin de compte. Et ce que j'aime, c'est ça, c'est que lorsqu'ils viennent, ils apprennent à faire un bon produit, à travailler un bon produit, et ils ont envie de continuer avec un bon produit également.
Hein. Et nous aussi, on a envie de continuer cette émission avec vous, bien sûr, avec nos invités. On reste ensemble sur Europe 1. Il est 13h17.
Europe 1.
Et peut-être que la crêpe est le nouveau sandwich nomade de demain. Mardi, Crêperie Urbaine y travaille en tout cas. A tout de suite. Cet après-midi dans La France bouge, on parle de la chandeleur. On se régale avec nos invités. Alors vous, dites-nous si vous êtes adepte des crêpes, quelles sont vos recettes? On veut tout savoir via Twitter, hashtag Europe 1. Vous pouvez également nous appeler au 3921, Raphaël. C'est vrai que quand on est jeune, on aime bien manger des plats emportés, des sandwichs. Mais parfois, on en a marre aussi. Bonjour Guillaume Morand.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs de Mardi Crêperie Urbaine. Et alors, dans une autre vie, j'ai envie de dire, vous avez observé ce qui se passait autour de vous. À l'époque, avec votre cofondateur, vous avez remarqué qu'au bureau, finalement, il y avait beaucoup de gens qui commandaient des pizzas, qui commandaient des burgers, tout un tas de choses, mais pas des crêpes, alors que la crêpe, quand on demande autour de nous, tout le monde l'aime.
Exactement. Exactement. On est parti de ce constat-là et on s'est dit, il y a peut-être un truc à créer. Pourquoi on n'essaierait pas de créer un premier fast-food de crêpes? Partant de ce constat qu'effectivement les gens adoraient les crêpes mais qu'ils n'en ramenaient pas au bureau pour déjeuner. Et on s'est dit, soit on est des génies, personne n'y a pensé,
oui.
Soit il y a des problèmes.
Et alors?
Et sans surprise, il y a des problèmes.
Il y a des problèmes, mais vous êtes quand même des génies parce que vous avez inventé un nouveau concept. Bah si, quand même, si, moi j'ai le droit de le dire. Vous faites des crêpes carrées.
Voilà, c'est ça. C'est qu'en
parce
fait...
que c'est ça aussi la principale difficulté de la crêpe, c'est qu'elle est ronde. Donc elle n'est pas simple. Enfin,
elle est ronde, et puis une fois qu'on s'est bien ennuyé à la faire bien ronde, on la plie en quatre et on la sert carrée. Les crêpes, elles se servent carrées parce qu'en fait, sur le sarrasin, la partie qui n'est pas en contact avec la plaque chauffante n'est pas très belle parce que c'est du gris. Et donc en fait, on retourne les côtés de la crêpe pour donner le joli côté qui a une belle couleur marron. Donc on les sert carrés en fait. Donc on s'ennuie à les faire rondes. Enfin c'est pas ça qui nous a dit on va faire des crêpes carrées parce qu'on les fait rondes. C'est pas tellement ça.
Non mais si je parle de ça c'est parce que vous avez inventé une machine.
C'est ça.
Vous avez breveté.
Parce que comme vous voulez faire un fast-food de crêpes, on avait targeté à peu près un ticket restaurant et demi pour déjeuner. Et donc il faut être capable de faire beaucoup de crêpes rapidement à un prix serré. Pour répondre à cette clientèle de bureau, on va dire. Ça a pris du temps, parce qu'en fait, en partant d'une feuille blanche, on s'est aperçu qu'il y avait des difficultés. Et à la fin, on a décidé de faire notre propre système de cuisson, d'accord, en particulier déposant un brevet sur cette fameuse buse de dépose qui, en fait, permet de faire une pâte, de faire une crêpe rectangulaire.
Donc, comment vous faites? Vous avez, ça me fait penser au système du croque-monsieur, finalement. Mais peut-être que je me trompe.
Oui. C'est pas du tout un système de croque-monsieur. En fait, c'est assez simple. On a un système qui se compose de trois parties. On a de la pâte qui est dans un frigo. Mm-hmm. Cette pâte, elle est agitée parce que la pâte à crêpes, si vous la laissez dans un saladier, elle va sédimenter.
Ah
donc
bon
il faut... Oui, il y a une partie qui s'enfonce et une partie qui... Voilà.
Donc, j'ai peut-être compris pourquoi je l'ai raté tout le temps.
Voilà. Donc, il faut... donc,
elle est en formation, Elisabeth.
elle est donc dans un frigo. Elle est remuée. Et puis, quand on fait une crêpe, il suffit de prendre cet instrument qui est une espèce de râteau sans dents, d'appuyer sur un bouton, le produit arrive et vous faites un rectangle de pâte.
Guillaume ?
Bien, là on a tous les ingrédients.
Une deuxième, s'il vous plaît.
En termes d'innovation, en termes d'industrialisation, en termes de passion, vous avez un projet de développer un réseau, aller plus loin. J'imagine que quand on en arrive à tout ce niveau d'innovation, vous avez une idée derrière la tête.
Alors, c'est déjà un peu fait.
C'est
avec
déjà un peu ça,
restaurants.
Parce qu'on a ouvert le premier restaurant en septembre 2016 à Bourse. On en a ouvert un deuxième à Rambuteau au début de l'année dernière. Et la semaine prochaine, on ouvre un corner dans la gare Montparnasse.
Un kiosque.
L'expansion est en marche.
Voilà, c'est ça.
Comment vous faites? C'est facile à emporter? On met dans un carton? Comment ça marche?
Voilà, on a fait des boîtes spéciales. Donc, on peut faire sur place. Le restaurant a une salle, donc on peut déjeuner sur place.
Vous faites quand même travailler 25 personnes et il y a, je crois, entre 150 et 200 clients par restaurant, c'est ça?
Oui, c'est à peu près ça. En gros, c'est ça. Et surtout, l'énorme différence, c'est qu'en fait, il n'y a pas de formation. Parce qu'en fait, effectivement, c'est aussi ce dont on s'est rendu compte. C'est que non seulement c'est difficile à faire, donc il faut des gens qui sont très formés, et les gens qui sont très formés, ils coûtent plus cher. Donc c'est pas qu'on veut pas payer les gens cher, mais c'est que quand vous faites un fast-food, on nous surnomme les centimiers. C'est-à-dire que c'est centime après centime qu'on gagne de l'argent. Donc en fait, nous, on n'a pas cette problématique. Vous rentrez dans le restaurant, vous n'êtes jamais venu, au bout d'un quart d'heure, vous savez faire des crêpes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 100% de nos collaborateurs savent faire des crêpes. Et par exemple, dans le restaurant rue Rambuteau, il y a, je crois, seulement une personne qui a une formation de restauration.
Oui, et c'est elle qui transmet finalement aux autres
Non, pas forcément, parce que tous les gens ont été formés sur cet appareil. Et il se trouve qu'elle, elle a une formation de cuisinière, mais c'est un hasard.
Et on les voit, hein, pour ceux qui nous suivent sur europe1.fr, vos différentes crêpes. Elisabeth, les crêpes, elles ont élargi leur public, on peut le dire. C'est plus seulement pour les enfants.
Non, c'est plus pour les enfants, c'est plus seulement pour les étudiants. Hein, parce qu'on le voit depuis quelques années, aller dans une crêperie, c'est plus seulement réservé aux fameuses sorties étudiantes ou quand on a très peu de moyens. Aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué que les crêpes figurent de plus en plus sur les cartes des desserts dans les restaurants, même chez les grands chefs, hein, j'ai vérifié tout à l'heure, vous pouvez aller voir sur la carte de la Tour d'Argent, vous avez la crêpe Mademoiselle, ou chez Taïwan, vous avez à la carte des crêpes Suzette flambées. Les crêpes, ça concerne tout le monde, on a tous envie de manger une crêpe, quels que soient les moyens que l'on a.
Et puis on parlait innovation, vous en avez trouvé une autre qui ressemble en matière de crêpes
de crêpière, vous voulez dire?
De crêpière, oui.
Oui, ce sont des élèves de Proméo. Alors elle n'est pas encore commercialisée parce que ce sont des élèves d'une école de formation qui ont mis au point une machine à crêpes automatique. La pâte à crêpes est versée dans un bac, puis elle passe sur un cylindre tournant et chauffant qui cuit la crêpe avant de la déposer, sur un plateau oscillant. Cette nouvelle forme de crêpière s'appelle Crêpéo.
Alors, ouais. Pour le coup, je ne vois pas trop où est l'innovation, parce que ça glissait déjà, on s'était renseigné.
Ce sont des élèves qui ont travaillé des heures là-dessus.
C'est un cylindre qui tourne et qui dépose des crêpes. Oui, mais une fois que la crêpe est déposée, qu'est-ce qu'on en fait?
Et bon, on la mange.
Et oui, il faut la garder. Donc il faut la. Oui, c'est un appareil à fabriquer des tas de crêpes en fait. Et dans une crêperie, il faut la reprendre, la garnir, la servir, etc.
C'est un projet d'école, des jeunes, des projets d'école
sans rien.
Par exemple.
Et on peut les commander en ligne. On vous retrouve sur toutes les plateformes de livraison à domicile. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont en train de saliver.
Et on a essayé de. En fait, il y a deux grandes parties. Autant tout ce qui est fabrication, on a tout cassé pour faire un système qui nous permettait de faire beaucoup de crêpes rapidement, et donc de répondre à cette problématique de fast-food et de clientèle professionnelle qui déjeune entre midi et demi et 13h45. D'accord ? Et tout ce qui est recettes, par contre, on s'est fait aider au départ de chefs culinaires pour avoir des recettes. Bien sûr, on aura toujours la jambon, œuf, fromage, parce que les gens veulent,
c'est
et les gens demandent.
Ouais.
Mais on a par exemple des mardiflettes, on a une burger, on a une cheese dog, on a pas mal d'ingrédients.
Pour répondre aux plus jeunes.
Voilà, il y a ceux que ça fait kiffer de prendre des ingrédients un peu rigolos.
Dernière question, c'était quoi votre premier métier?
C'est dans la finance.
D'accord.
Rien
merci. Non, c'est pour toujours pour les auditeurs, pour les inspirer.
Et oui.
C'est là qu'on s'est rencontré avec Maxime, donc
le cofondateur.
Mon associé, le cofondateur.
On reste ensemble et on continue à parler crêpes aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h27.
Europe 1.
Et qu'est-ce qui est indissociable de la crêpe? Le cidre, bien sûr. Il est en pleine reconquête du marché en France. À tout de suite avec Fils de Pomme. Aux côtés des chefs d'entreprise et de leurs équipes, AXA Prévention vous présente La France Bouge. Et ce dimanche, c'est la Chandeleur. On prend un peu d'avance dans La France Bouge pour vous faire saliver avec nos invités. Leur recette de crêpes, mais pas que, Raphaël. Mais non, pas que. C'est un des indissociables quand on parle de crêpes ou de galettes. Le cidre est de nouveau en odeur de synthé. En témoigne la vitalité du secteur. Bonjour Théo Brunet-Lepotremain.
Bonjour, merci beaucoup
d'être avec nous. On est ravis de vous avoir avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs de Fils de Pomme. Comment vous est venue l'idée de vous lancer, ou, plutôt relancé dans le cidre, parce que c'est une histoire de famille quand même, le cidre chez vous.
Oui, effectivement. Il faut savoir que je suis issu d'une lignée d'officiers de la Marine nationale, les Kermassons de Carizel, et qui avaient cette tradition depuis plus de deux siècles de produire du cidre. Donc c'était quelque chose qui était très ancré dans ma famille et dont ma grand-mère, effectivement, a essayé beaucoup de me remettre sur le chemin.
Oui, parce que ça s'était arrêté en 1930.
Exactement, c'est ça. Pas une faillite.
Ouais. Et alors, comment elle vous persuade de revenir finalement aux premières amours familiales?
Bah, en fait, c'est un produit, on le sait, on voit déjà, notamment à l'international, qui est en train de complètement exploser. C'est un des produits qui a la plus forte croissance. Et il se trouve qu'il y avait un énorme potentiel, effectivement, en France, mais qui était complètement sous-exploité. Et c'est pour ça qu'on a trouvé hyper intéressant de mêler donc, justement cette passion à un vrai projet entrepreneurial et qui avait aussi une vertu à valoriser ce savoir-faire français. Parce qu'il faut savoir qu'on l'exporte aussi. On est présent en Australie, on est présent au Japon, on est présent aussi au Mexique et pour finir à Hong Kong.
Alors vous dites on c'est vous et c'est Valentin. Valentin qui faisait du cidre à micro-échelle avec son grand-père, hein, je crois, au début.
Exactement, dans c'était vraiment pressoir. Une plus petite échelle. Il avait le vieux pressoir dont il avait eu l'utile effectivement de faire une petite production. Il avait la joie de déguster entre cousins chaque été.
Donc vous relancez la production ensemble il y a 3 ans.
Oui.
Et alors, en 2 ans, vous vous écoulez 500 000 bouteilles.
Oui, c'est assez extraordinaire. On ne s'y attendait pas tellement, mais on a fait un demi-million de bouteilles en l'espace de 2 ans. On n'était que 2. Et tout ça s'est passé sans énormément de moyens, puisqu'on n'avait pas vraiment un copec en poche. Mais très vite, on a eu le soutien des banques. Très vite, on a eu le soutien de la BPI. Très vite, on a eu le soutien aussi de la CCI. Et grâce à eux, grâce aussi à leurs conseils, on a réussi à faire... quelque chose dont on est assez fier aujourd'hui et dont on espère pouvoir aller encore beaucoup plus haut.
Oui, parce que vous êtes associé à un maître de chez en Normandie. Vous êtes aussi 100% engagé, c'est-à-dire qu'on est sur des pommes françaises et même en ultra local quand c'est possible.
C'est ça, on a un cahier des charges qui est extrêmement rigoureux et tout est fabriqué en France. On essaye de privilégier au maximum l'ultra local sur l'approvisionnement de nos pommes. Et évidemment, tout est certifié biologique, qu'on soit sur la pomme ou alors sur le poiré, et tous les ingrédients autres quand on va travailler des infusions.
Alors, elles sont avec nous, vos différentes productions. J'imagine qu'il n'y a pas forcément toute la gamme, mais en tout cas, il y a le sauvage qui est le classique, le cidre.
Mais qui ne l'est pas, parce qu'il a une vraie subtilité.
Il y a l'épatant qui est le poiré, pour le coup.
Exactement.
La coquette qui, alors elle, est mixée avec fleur de sureau et hibiscus, c'est ça ?
C'est un cidre rosé qui est infusé avec de la fleur de sureau et effectivement de la fleur d'hibiscus.
Et l'audacieux, effectivement, parce qu'il y a du yuzu et du basilic.
C'est ça,
exactement. Donc on réinvente complètement le cidre.
C'est ça, l'idée c'est de prendre aussi un peu le parallèle de ce qui se passe sur la bière artisanale et d'essayer d'aller travailler des produits complètement...
de l'originalité.
Exactement, c'est ça. Mais tout en ayant aussi des produits qui sont nos grands classiques et sur lesquels on passe énormément de temps à essayer d'avoir la plus haute exigence. Et cette exigence nous a d'ailleurs permis 2 fois d'avoir été élu vice-meilleur site du monde. Et ça, on le doit à des années
et
des années de travail.
En 2018.
Exactement, c'est ça.
Guillaume Kerrou, c'est épatant, cette histoire.
Moi, je bois les paroles de Théo. Donc là, c'est ça la France qui bouge. Entrepreneur, une entreprise hyper engagée, hyper innovante. N'oublions pas, en plus, demi-breton, donc je suis encore plus concerné par ce sujet. Petit-fils d'agriculteur qui faisait son cidre, donc je suis très sensibilisé à cette question. D'autant que moi, mon sujet, c'est quand même aussi l'emploi et les entreprises en France. Ce qui a détruit le plus d'emplois indépendants dans notre pays, c'est la chute du nombre d'agriculteurs. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit, et ça, les auditeurs, il faut qu'ils en prennent conscience, que nos territoires sont riches de ce type d'activité qu'il faut réinventer. On parle des ag-tech, toutes les nouvelles technologies autour de l'agriculture. Eh bien, l'agriculture va renaître. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut réinventer des produits avec des produits bons, avec un bon packaging et avec une équipe du tonnerre. Bravo.
Bravo. C'est vrai qu'en plus, on a une chance particulière, Elisabeth, en France. On a le plus grand verger de pommes à cidre d'Europe.
Mais oui, la filière cidricole française compte environ 12 000 producteurs de pommes à cidre, 2 000 en vergers professionnels, 10 000 en petits producteurs, 500 cidriers, dont deux coopératives, une quarantaine d'artisans et plus de 400 producteurs transformateurs. La France est donc le plus grand verger spécialisé de pommes à cidre d'Europe, avec 9 000 hectares, 250 000 tonnes de fruits en moyenne chaque année, pour élaborer des cidres à partir du millier de variétés identifiées de pommes à cidre.
Et c'est la nouvelle star, le site des bars, des restaurants.
Mais Théo le disait, hein, ça explose complètement. On vit une profonde mutation avec le cidre. Est-ce que vous vous souvenez tous des étiquettes ringardes que l'on pouvait voir sur les bouteilles de cidre? Franchement, non, ça vous dit quelque chose?
Dans les années 80.
Mais c'est ça, ouais. Dans les années 80. Et bien là, que ce soit dans les restaurants étoilés, plutôt réputés pour leur carte de bon vin, dans les bars ou dans les épiceries. On parle même de cuvées rares parfois pour les cidres. Elles sont réalisées par des cidriculteurs qui travaillent la pomme exactement comme les vignerons travaillent le raisin. Et c'est comme avec le vin, c'est toute une somme de détails mis bout à bout qui, à l'arrivée, conditionne ce que l'on voit là en bouteille, la qualité du fruit, la maîtrise des assemblages, le suivi de la fermentation. Et on a même des cidres millésimés.
C'est votre cas, vous en avez déjà ou c'est encore trop tôt pour...
C'est un scoop, c'est le prochain qui va sortir.
Eh ben voilà,
vous l'avez.
J'ai bien fait de poser la question, ouais. Alors. Prochain.
C'est le prochain c'est prévu pour une sortie mars. Après, on est extrêmement vigilant sur justement ce produit-là et donc il pourrait avoir du retard, mais parce que notre but, c'est vraiment, ça fait plus de 3 ans qu'on est dessus. C'est une cuvée dont on est extrêmement fier et c'est de le sortir avec la. Plus de précautions possibles.
Oui, parce que vous êtes aussi chez des chefs étoilés.
Oui, effectivement, c'est pas forcément quelque chose qu'on avait cherché, mais on a eu cette occasion-là. Et c'est vrai que c'est une belle récompense pour notre travail d'avoir ces grands chefs étoilés qui nous soutiennent en nous choisissant. Et on a aussi fait notre entrée au Collège culinaire de France. Et voilà, c'est des petites récompenses, mais qui nous continuent dans... Enfin, qui nous... donne envie d'aller encore plus loin, voilà, ouais. Qui nous booste et qui nous donne envie d'aller encore plus loin et de faire toujours encore mieux.
Allez, on va le goûter ce cidre et on reste ensemble sur Europe 1.
Il est 13h37.
Europe 1.
Et on attend évidemment vos questions, vos recettes aussi, parce qu'il y a un débat, je ne l'oublie pas. 3921 et Twitter, hashtag Europe 1, la France bouge avec vous. A tout de suite.
Europe 1. Cet après-midi, dans La France bouge, Raphaël Duchemin est dans une ambiance conviviale dans ce studio.
Oh, regardez, je vous ai même mis la musique.
Mais oui,
merci Nicolas Charpentier, notre réalisateur, qui nous met dans l'ambiance parce qu'on est avec les verres de cidre, les crêpes, les galettes. Et oui, on parle de la Chandeleur aujourd'hui. C'est convivial, c'est comme ça qu'on aime La France bouge. Nous sommes avec Françoise Bonnet qui tient le comptoir breton Crêperie Belgique au marché de Passy à Paris. Elle a créé son école, sa formation en tout cas de crêpier. Guillaume Morand qui est aussi avec nous, cofondateur de Mardi Crêperie Urbaine, restauration rapide de crêpes de qualité. Et Théo Brunet, le potrema, cofondateur de Fils de Pomme, cidre biologique made in France, qui veut donner une image plus moderne et plus festive au cidre. Notre coach, c'est Guillaume Quérou, président fondateur de Didax.
Qui est en train de bénéficier d'une formation de cidriculture.
En accéléré. Et évidemment, Elisabeth Assayag est avec moi. Moi, j'ai une question. Je vais lancer deux débats sur le cidre et sur la crêpe. C'est breton, c'est normand, le cidre, Théo?
C'est une super question.
Vous avez 2 heures.
T'as vu les mêmes choses que moi, en fait. C'est pas juste.
Bah, en fait, il faut savoir que le cidre, et je vais être le plus fair possible, c'est... les plus belles traces qu'on a, c'est pour le coup, c'est de
Normandie.
Ibérique, exactement. Et puis après, on dit que les marins l'ont ramené, donc en Bretagne, en Normandie. Et l'ont magnifié. Donc,
comme tout ce qu'on fait en France, n'est-ce
exactement,
pas?
Exactement, c'est ça. Donc voilà, effectivement, ça c'est pour la réalité historique.
On a une question, je crois, de
oui,
Marc sur
Marc,
Twitter.
Hashtag Europe 1. On a tous essayé de faire des crêpes à la maison, mais le plus compliqué est souvent de bien cuire la crêpe. Mm. Mais quand on n'est pas bien ou mal équipé, la vraie question, demande-t-il, c'est poêle ou crêpière?
C'est la question.
On va trancher, Françoise.
Non, mais tout le monde ne peut pas avoir un Billig à la maison. C'est pas gratuit, c'est un certain coût. En plus, il faut quand même de la place, ça fait 40 cm de diamètre. Alors bon, la poêle, elle peut nous faire des crêpes tout à fait formidables. Plus difficile de faire une sarrasin dans une
poêle à crêpes.
Il y a un temps de cuisson à respecter? Chaque côté?
Alors, Alors ça, ça va dépendre aussi de la chaleur qu'on va utiliser. Moi, avec
si
le
Bilig,
j'ai un thermostat, ouais. il monte à 240, qui est utilisé pour les crêpes ou les galettes, c'est la même chaleur. Après, quand on fait des petites crêpes à la maison, ou soit sur la cuisinière électrique ou à gaz, on voit bien quand elle prend, et puis vous la retournez. Moi, ce qui n'est pas mon cas, moi, je ne retourne pas mes galettes ni mes crêpes.
Ouais, ce qu'on veut préciser, c'est que donc effectivement, à la maison, il faut que le sarrasin cuit à une température élevée. Donc c'est environ effectivement 230 ou 240 degrés. Et c'est surtout que quand vous faites une pâte de sarrasin, il faut la laisser fermenter. Vous devez la laisser un petit peu évoluer. Et si vous faites votre pâte tout de suite et que vous la faites cuire, elle aura peut-être un bon goût. Mais en fait, elle ne sera pas très jolie, elle n'aura pas un bel aspect. Donc effectivement, contrairement à la farine de blé qu'on utilise, on fait sa pâte à crêpes, on peut l'utiliser tout de suite, il n'y a pas de problème, à une température qui est en général un petit peu plus faible. Mais je pense que c'est surtout ça le sarrasin, c'est qu'il faut trouver, le temps de laisser reposer la pâte.
Les poêles en fonte, non les poêles en fonte, ça, il me semble que ma grand-mère utilisait une poêle en fonte.
Oui,
non
probablement. Le Bilig, là aussi il y a un débat, sans doute, mais les Bilig c'est en fonte. Hein, c'est clair.
D'accord. Voilà, effectivement, on a historiquement fait toujours cuire sur de la fonte. Le problème de la fonte, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, les cuisinistes ne font plus de plancha en fonte.
D'accord.
Parce que ça colle trop.
Ok.
Donc la fonte, c'est quoi? C'est de l'acier avec du carbone. Maintenant, on est capable de faire de l'acier tout court. Et donc, du coup, chez Mardi, ce qu'on utilise, c'est des planchas en acier chromé qui sont très peu adhésives, qui fait qu'on vont mettre moins de beurre. Mais voilà, la fonte, parce qu'on a toujours utilisé la fonte. En fait.
Ok.
Alors, je vais vous parler justement de l'outil, Elisabeth. Oui. Il y a une crêpière qui a plus de 50 ans d'existence.
La crampouse. Vous la connaissez?
Ah voilà, moi j'utilise que ça.
Eh ben voilà. La crampouse, elle existe depuis 1945. Crampouse, c'est un nom breton, ça signifie crêpe. Tout simplement, elle est installée près de Quimper, là, en Bretagne. C'est une icône, cette PME. Elle conçoit, elle fabrique des crêpières, des gaufriers. Et elle a été rachetée en septembre par Seb.
Alors justement, question pour vous Guillaume, comment est-ce que vous faites fabriquer vos nouveaux modèles justement, c'est fabriqué en France
Les planchas, c'est un nom espagnol parce qu'effectivement, c'est surtout des entreprises espagnoles qui ont développé des systèmes de planchas, de grandes planchas professionnelles, qui sont un peu la V2 du teppanyaki en fait, d'accord. Le teppanyaki c'est quoi? C'est
en a de très bonnes en France, je pense à Eno notamment.
Oui, mais on appelle ça plancha. Bon, et donc nous, notre système de cuisson est en trois parties. Cette plancha, donc qu'on achète chez notre cuisiniste, la partie de la buse de dépose qu'on fait fabriquer chez un artisan dans le 5e arrondissement de Paris d'ailleurs pour le coup, et tout ce qui est fûts et systèmes de tuyaux etc. Et ça, c'est une entreprise française qui s'appelle Inoxpa et qui est spécialisée dans la fabrication de ce genre de matériel. C'est du matériel d'industrie agroalimentaire, on va dire, donc qui respecte tous les process de sanitaires etc.
Guillaume ?
Moi, je suis bluffé parce que c'est vrai qu'au début, j'avais vu la thématique, la chandeleur. J'étais un peu dubitatif. Mais là, sincèrement, je suis transcendé. Transcendé par... vraiment la variété, la diversité de ces entrepreneurs, de ceux qui créent en France. Et ce qu'on a envie de dire aux auditeurs, c'est foncez, allez-y. Et comme diraient certains, osez.
Faites plaisir à Marjorie Adelson qui a préparé cette émission pour La France Bouge et qui était elle aussi convaincue par ce sujet. Théo, on parlait de ce qu'il y avait dans la bouteille. La bouteille aussi, c'est du verre que vous prenez en France, tout est vraiment français, l'étiquette, tout.
Alors, l'étiquette, non, c'est un papier italien. C'est l'Italie. Effectivement, sur l'impression, on fait travailler une petite entreprise française, notamment comme nos sous-bocs. On les fait en France.
Bleu, blanc, rouge. Hein.
Exactement.
Ça fait un peu Assemblée nationale.
L'imprimerie ICB.
J'en prends un pour ma voiture.
Ouais.
Oui, ça peut aussi marcher. Effectivement.
Bah, en fait, la petite blague, c'est qu'on a pris à l'Assemblée nationale et on est devenu leur fournisseur. Donc,
Puisqu'on parlait des chefs étoilés tout à l'heure, il y en a qui jouent avec cette image sur le cidre de plus en plus.
Mais, oui, il y a le chef étoilé Thierry Marx qui lui prête son image au cidre de France. Ouais. Ils ont fait appel au chef étoilé pour promouvoir la diversité du cidre ainsi que des accords mais cidre, parce que c'est pas seulement avec les crêpes le cidre. Hein.
Non.
Le cidre, on peut aussi le déguster pendant un dîner, pendant un plat.
Bah, c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce qu'on a à peu près plus de 600 établissements qu'on a sélectionnés avec lesquels on travaille, et on a à peu près que 6 ou 8 crêperies.
Dernière question pour finir, pour conclure. Les femmes sont une grosse partie de la clientèle ?
Ça représente une grosse partie de la clientèle, mais la réalité, c'est qu'on pense que ce n'est pas un produit qui doit être clivant. Mmh. Et justement, on a essayé de l'amener aussi aux hommes. Et en fait,
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci à tous les trois d'être venus nous parler chandeleur aujourd'hui sur Europe 1. On était ravis de vous avoir avec nous.
Merci beaucoup.
Il est 13h47. Europe 1. C'est un des parcs animaliers les plus célèbres, mais il est aussi beaucoup plus que ça, le zoo de Beauval et l'entreprise qui va bien. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est le zoo de Beauval. Et oui, on vous a mis dans l'ambiance, forcément. Bonjour Delphine Delors. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale de Beauval Nature, vice-présidente également de ce qui est devenu aujourd'hui une véritable entreprise. Mais au départ, en 1980, si on remonte le temps, c'est votre mère qui se lance dans l'aventure. Elle crée le zoo. Il faut dire que c'est assez naturel chez elle parce qu'elle a une passion pour les oiseaux au
Tout
départ.
À fait.
Vous en avez combien dans l'appartement parisien ?
Alors, c'est vrai que c'est une drôle d'histoire d'enfance. Hein. Moi, j'ai vécu ma petite enfance environnée d'oiseaux avec un père magicien et une mère qui était dingue d'oiseaux.
Au départ.
Voilà, donc avec mon frère. Et du coup, on a eu jusqu'à 400 oiseaux dans un appartement parisien. Et voilà, quelque chose que l'on ne pourrait plus faire actuellement, qu'on n'encourage pas du tout.
Hein. Vous avez vu un père. Okay.
J'avais un petit perroquet, oui, j'avais un bec d'or qui me faisait des petits bisous, ça a une petite langue très douce. Donc, donc j'ai vécu une enfance exceptionnelle et puis on est parti en 1980 à Saint-Aignan-sur-Cher et maman a ouvert un parc ornithologique avec 2000 oiseaux et on a comme ça un peu essayé de s'agrandir, de vivre déjà. Parce qu'il fallait...
c'était pas facile. Hein,
c'était pas facile. Il nous fallait, il faut des visiteurs pour pouvoir nourrir nos oiseaux, pour pouvoir conduire nos programmes de conservation. Et en 89, on s'est agrandi, on a ouvert un zoo avec quelques fauves et quelques singes. Donc sachez-le, les animaux, on se les échange entre parcs zoologiques. Déontologiquement, on ne veut pas qu'un animal ait de valeur marchande. Un gorille pour la biodiversité quelle est sa valeur ? 1 million, 5 millions, 10 millions ? Que vaudrait un éléphant ? Que vaudrait un lamantin ? Donc les parcs zoologiques ont décidé qu'éthiquement il n'y avait pas de valeur sur les animaux menacés. Donc on se les donne, on se les échange et on a installé comme ça en 89 des fauves et des singes. Et puis en 91, on a installé des tigres blancs.
Alors, vous êtes allé les chercher aux États-Unis.
Tout à fait. Donc là pour le coup c'est pas une espèce zoologiquement intéressante, c'est un...
dans les détails, mais c'est une espèce magnifique. C'est le zoo de Beauval.
Oui. On a besoin de ces animaux phares, ambassadeurs, qui vont un peu porter pour les autres quelque chose de grandiose. Et ces tigres blancs magnifiques avec leurs grands yeux bleus, un peu comme les yeux de Lucide,
de Théo.
Vous êtes tous remarqués. Hein.
Aux grands yeux bleus, cette fourrure noire et blanche magnifique. Voilà, attire l'attention des visiteurs et nous sommes passés de 60 000 à 120 000 entrées. Et du coup, derrière, comme nous sommes des fous, enfin, maman et mon frère sont de grands entrepreneurs, je crois que c'est quelque chose que vous aimez bien. Et ils ont lancé, maman a construit derrière une serre tropicale pour des chimpanzés et des orangs-outans. Donc deux espèces qui sont, elles, menacées dans la nature. Et du coup, on a commencé également à soutenir nos programmes de conservation.
Alors, il y a eu les rapaces et le spectacle, les gorilles, les lamantins, vous en parliez.
Oui, j'adore les lamantins.
C'est un parc engagé. Hein. Les animaux ont de vrais espaces pour évoluer, pour tous ceux qui ne connaissent pas vraiment, aller voir, parce que on a l'impression qu'on est, nous, dans leur espace à eux.
Oui, sauf qu'eux, ils ont leur espace, contrairement à ce qu'on fait quand on va en Afrique, où là, du coup, on pénètre avec nos camions, nos trucs, sur le territoire des animaux. Hein, quand on fait un safari photo, on pénètre quand même sur leur territoire. Là, finalement, nos animaux, ils gardent leur territoire, et nous, on est un peu en spectateur à l'extérieur, pour regarder cette faune sauvage vive, magnifique. Et là, peu de monde a l'opportunité, d'ailleurs, j'en parlais à l'instant, de partir en Afrique, finalement déranger les animaux sur place. Et là, je pense qu'on s'adresse à cette intelligence émotionnelle du public. Et ils sont pris d'amour devant ces animaux. Alors, je sais pas, nous, quand ils se promènent chez nous, ils disent, mais on sent que vos animaux sont beaux, ils sont en pleine forme, leur poil est beau, on sent que vous les aimez. Et c'est vrai, nous, notre cœur, à nous Delors, à nous Beauval, c'est d'abord d'aimer les animaux. Donc c'est notre premier cœur, c'est ce que nous a transmis maman, à mon frère et à moi, à ma belle-sœur également. Et c'est notre première pierre. Donc c'est pour ça qu'on a tous ces programmes Beauval Nature. Et puis on a aussi cet amour.
Vous aidez des associations, vous aidez, oui,
on a une association Beauval Nature, on finance plus de 50 programmes par an de conservation sur le terrain. On se déplace nous-mêmes pour aller voir. Moi je suis allée réintroduire des singes à Java, mon frère est parti avec des gorilles qui sont nés à Beauval, qu'on a réintroduit
Oui, parce que vous avez 950 naissances par an.
950 naissances par an, donc des trop chouchou, mignon, hein. C'est vraiment des animaux, des petits adorables. C'est extrêmement important.
Un réservoir de population.
C'est extrêmement important, tout à fait. C'est un réservoir pour ces espèces qui sont menacées. C'est un réservoir pour les étudier, pour pouvoir mieux les protéger dans la nature. C'est un réservoir pour éventuellement les réintroduire. Mais si vous voulez, nous, quand on fait une réintroduction, finalement, je dirais qu'on a mal fait notre travail. Parce qu'en tant que conservationniste, on aurait dû agir avant de façon à ce qu'il n'y ait pas de réintroduction à faire.
Guillaume Carreau, notre coach.
On est en plein dans l'actualité. Moi, je suis d'autant plus sensible que j'ai grandi étant petit à 10 km de Thoiry et que j'ai acheté 20 hectares de forêt en Lettonie avec des caribous, des lynx, plein d'animaux sauvages. Et que moi, je suis bien dans la nature, au contact des animaux. Ça nous permet de nous ressourcer. Et c'est vrai que votre témoignage... après toutes les start-up, ces TPE, PME, artisans qui se lancent, c'est cette petite touche de douceur, de fraîcheur qui nous replonge aussi dans le rôle de l'humain dans ce monde qui est en train de se transformer, dans cette biodiversité qui est en train de disparaître, qui est largement impactée par tous ces feux de forêt partout dans le monde. Et en plus de ça, entreprise hyper engagé, parce que j'ai vu que vous étiez intervenu en Australie, vous avez fait des dons, et ça rappelle aussi à l'auditeur et à tous les Français qui nous écoutent, que les entreprises, que toutes ces organisations, elles ont un rôle aussi dans l'humanité, qu'on n'a pas simplement un rôle économique ou social, mais on a un rôle dans la protection de la planète.
Bien sûr, nous, de toutes les façons, c'est notre ADN, c'est notre raison d'être première. Nous, on parle au public
votre histoire,
pour leur expliquer, c'est notre histoire, pour leur expliquer cette protection de la biodiversité. Pour l'Australie, on a fait un appel au don du public, on a levé 113 000 euros du public en quelques jours. 113 000. Nous-mêmes, Beauval, on a nous-mêmes versé 50 000 euros. Beauval Nature a versé 25 000 euros à Tarongazou qui œuvre sur place. Et puis en plus, on sait exactement ce qu'ils font sur place. Pour nous, c'est très important. On soutient toujours des associations qui travaillent sur place et on sait ce qu'elles font.
Et je précise que vous avez 400 permanents qui travaillent avec vous. Il y a 35 000 animaux, 800 espèces, 68 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une ville.
Trois hôtels.
Une ville, des hôtels et puis des nouveautés qui se construisent chaque année. C'est le zoo de Beauval. Merci d'être venu nous raconter une partie de son histoire. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Guillaume Carreau, qui était notre coach aujourd'hui, fondateur de Didaxis et du Club des Entrepreneurs. Elisabeth.
À demain, Raphaël.
À demain, Céline également.